Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les films dignes d'être conservés, tous. Tous les films sont libres et égaux en droit. Moi, je prends tout parce que je suis un mémorialiste, disait Henri Langlois. Cela n'empêche pas la hiérarchie entre les cinéastes. Une bibliothèque nationale du film, ce serait bien utile et passionnant, non? Et un musée du cinéma? Un collectionneur, Henri Langlois? Non, un possesseur. À la mort d'Henri Langlois, le cinéma de tous les pays du monde venait de perdre sa mémoire, déclarait le ministre de la Culture. Gros plan sur Henri Langlois dans les Nuits magnétiques, le 14 octobre 1986. Et gros plan sur les écrits de Georges Langlois, le frère, écrit consacré à Henri Langlois. Et puis évidemment, quelques disputes, quelques perfidies entre disciples.
Vous a dit chose pareille, c'est qu'il est fou.
Oui, le chasseur était en train de m'expliquer qu'il ressemble à Charles Boyer. Et que si on lui donnait la chance de paraître sur un écran...
Celui à qui j'ai parlé, c'est le monsieur au pantalon de golf. C'est le directeur du film.
Et moi, viens ici, viens ici, imbécile. Tu t'es regardé un peu dans une glace, hein, avec ton nez là, comme une pomme de terre, tes oreilles fadades, tes jambes qui rentrent en dedans, et tu te prends pour Charles Boyer?
Je sais pas, moi, c'est ma sœur qui m'a dit.
Ouais, allez, rompez. Hein. Allez, va, va. Pas possible. Je n'étais jamais aperçu qu'il était idiot.
Mais cher monsieur, un spoon, ce n'est pas un idiot. Un spoon raisonne parfaitement sur toute chose. Il vit comme tout le monde. Il a même du bon sens, sauf en ce qui concerne le cinéma.
Et quand il s'est mis dans la tête qu'il ressemble à un grand acteur, eh bien, il le croira toute sa vie.
Gros plan sur Henri Langlois. Denise Luccioni, Bruno Sourcy. Henri Langlois.
Le premier souvenir de film, ça me remonte à loin, parce que ça m'avait tellement frappé. Quand j'avais, je sais pas, 8 ans ou 7 ans, j'avais vu Le Comte de Monte Cristo de Pouctal, et un petit épisode, et ça m'avait beaucoup frappé. On voyait Monte Cristo emmené au château d'If. Et quand j'ai revu le film en 40 et quelques, je me suis dit, tiens, ça avait marqué, tellement marqué, qu'il y avait des images qui étaient vraiment restées fidèles. Il y avait 3 films comme ça qui m'ont marqué. Dont 2, je n'ai pas pu confronter, puisque je ne les ai jamais retrouvés. Mais avec Monte Cristo, ça m'avait marqué à l'époque. Mais enfin, c'est pas ça qui a défini mon goût pour le cinéma, puisque je n'ai pas été au cinéma jusqu'en 1925. Et ça doit se situer en 18 ou 19.
1986, la Cinémathèque française, depuis janvier, fête son cinquantenaire et s'émerveille, à juste titre, d'avoir survécu et prospéré contre vents et marées. Henri Langlois, fondateur avec Georges Franju de la Cinémathèque française, Henri Langlois, mort en 1977, aurait eu 72 ans. Deux livres paraissent ce mois d'octobre autour d'Henri Langlois. Des écrits rassemblés par Jean Narboni sous le titre « Henri Langlois, 300 ans de cinéma » au cahier du cinéma, et une deuxième tentative de biographie après celle de Richard Raud parue chez Belfond, celle de Georges Patrick Langlois, frère d'Henri, co-signée par Glenn Myrant chez De Noël sous le titre « Henri Langlois, premier citoyen du cinéma ». Si la publication des écrits enchantera sûrement cinéphiles, cinéphages et chercheurs, la biographie, elle, suscitera sans doute bien des réactions passionnelles. Jean-Coq te disait, Henri Langlois, vous êtes le dragon qui veille sur nos trésors.
Quand il avait en face de lui quelqu'un qui pouvait terroriser, il le terrorisait.
Georges Franju.
C'est vrai que Langlois est un homme de destin. Langlois était pour moi, c'est un type pathétique, Langlois, avant tout. C'est un homme... Vous savez, la vie de Langlois, c'est un drame effroyable. Hein. Un drame effroyable. C'était le contraire d'un homme en paix, d'un homme heureux, Langlois. Enfin, il a eu la vie qu'il a voulu. S'il avait eu une vie plus sage, il aurait duré plus longtemps, mais la cinémathèque n'aurait jamais eu cet éclat. Cet éclat, parce que la cinémathèque a fait d'éclat et de dépression, mais les moments éclatants sont vraiment superbes, enfin, sont des splendeurs.
Françoise Jobert.
Il était très superstitieux. C'est vrai qu'il y a une magie dans le. Il aimait d'abord les films, il aimait les films magiques. Et il y a une magie dans le cinéma. C'est probablement son tempérament l'inclinait vers ça. Il croyait beaucoup aux cartes. Il avait toujours autour de lui quelqu'un qui lui tirait les cartes. C'est Lotte Eisner qui, pendant très longtemps, a fait office de ça. Et il mettait instantanément un nom. C'était pas le roi de cœur ou le roi de carreau. Hein. C'était un tel et un tel. Quand Lotte, il lui disait, il y a un homme qui vous veut du mal, il me disait, ah, je le savais, etc. Bon, il y a eu d'autres personnes qui lui ont tiré les cartes. Et c'est vrai qu'il était très superstitieux. Il croyait que certaines choses portaient malheur et... Il était très superstitieux.
Georges Franju, en 1977.
J'ai connu Langlois en 33. 33-34. Après mon régiment, je me repose en Bretagne. Mon frère me dit, j'ai connu un gars curieux, sympathique et extravagant, je voudrais que tu le connaisses, il ne parle que de cinéma, comme toi tu en parles tout le temps aussi, vous êtes fait pour vous entendre. Et j'ai rencontré Langlois qui travaillait dans une imprimerie, où il avait été placé par son père pour apprendre à avoir de l'ordre. Comme moi j'avais beaucoup plus le sens de l'organisation que lui, on s'est employés tous les deux dans cette imprimerie, lui à faire du désordre et moi de l'ordre. On a tenu le coup assez longtemps et je faisais en même temps des maquettes d'affiches de cinéma. Comme Langlois me parlait toujours de fonder un ciné-club, il a été trouvé Paul-Auguste Arlet avec ses maquettes. Il a donc fait la connaissance de Paul-Auguste Arlet, qui ne nous a pas été évidemment indispensable pour la fondation de ce ciné-club, mais dont le rôle a été déterminant par la suite. On a donc fondé le Cercle du cinéma, projeté salle FIF aux Champs-Élysées des films dont on voulait savoir s'ils étaient dignes d'être conservés, et avons entrepris déjà une sélection de bases. Nous sommes souvenus de ce que nous avait dit Arlet, c'est-à-dire qu'il nous avait promis de nous aider, et nous avons obtenu de lui 10 000 francs pour acheter des copies de films qui étaient en perdition, chez des petits loueurs. Nous avons fondé, comme ça, la base de la Cinémathèque française.
We are two.
A lot of weather we've been having lately.
Yvonne Dornès.
Oui, ma première rencontre avec Langlois, évidemment, qui a été pour moi un événement très important. J'étais chargée de mission à la présidence du Conseil. J'étais en quelque sorte chef de cabinet d'Yves Châtaigniaud. Et je reçois un jour la visite d'un petit jeune homme, Fluet, et qui devait avoir à peu près 20 ans. Ou 23 ans peut-être, qui venait me demander de l'aide dans son projet. Alors il m'explique évidemment très longuement son projet, qui était la création d'une bibliothèque nationale du film. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. Il me dit, je ne cherche pas à faire une collection, je cherche à donner à la France une bibliothèque nationale du film. Et il m'explique pourquoi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et Châtaigniaud, mon patron, me dit, vous ferez tout ce que vous pourrez pour l'aider. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important.
Have a nice trip, darling.
Lovely. Until these two came aboard. And they've done nothing but annoy me all the way in.
You run along home.
Goodbye.
Fiddling, huh?
Langlois a toujours été un expert en style. Et il n'a jamais été un collectionneur. Il avait l'esprit de possession, mais pas du tout l'esprit de collection, parce que l'esprit de collection suppose un esprit d'ordre, ce qu'il n'a jamais eu, et ce qu'on lui a toujours reproché. Langlois était un possesseur. Si possesseur était une profession, ce serait la sienne. Langlois était possesseur.
On a beaucoup parlé de son désordre. Ce n'était pas du désordre, c'était son ordre à lui. Et son ordre partait du principe de son choix. Il était là pour servir le cinéma, pour chercher les films, les récolter, les conserver, et il faisait ça sans argent, sans moyens. Donc, avec des méthodes absolument empiriques, il n'avait pas les moyens de le faire d'une manière ordonnée, administrative.
Françoise Jobert.
Vous savez, c'est très difficile. On ne peut pas diriger une cinémathèque comme une entreprise commerciale. Et c'est tout à fait vrai, et j'en sais quelque chose, que si on vous reproche, par exemple, d'inviter quelqu'un à dîner et de lui faire faire un somptueux dîner et que la personne vous donne une copie en couleur d'un long métrage, ça paye 15 fois le dîner qu'on lui a offert. Hein. Il faut quand même être capable de faire cette gymnastique mentale.
Yvonne Dornès.
Son grand désir, c'était son rêve depuis toujours, c'était le musée du cinéma. Et tous les ministres qui se sont succédés lui ont dit « idée merveilleuse, nous vous le financerons ». Et on le lui promettait toujours et l'argent n'arrivait jamais. Et un beau jour, il a dit « tant pis, je l'ouvrirai sans argent ». Sans argent, c'était pas possible. Et pour ouvrir son musée, Henri a, et il a bien fait, et je le dirai toujours, il a pris l'argent de la cinémathèque. Pour lui, le musée, c'était partie intégrante de l'œuvre qu'il voulait accomplir. Et il a pris l'argent de la subvention de la cinémathèque et il a ouvert son musée. Et le musée existe. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? La cinémathèque a fait des dettes. Si bien qu'en 77, quand le pauvre est mort de fatigue, d'épuisement et de la vie terrifiante qu'il avait menée et des soucis abominables qu'il avait avec cette cinémathèque. On ne peut pas savoir ce qu'a été sa vie, c'est quelque chose de terrifiant. Il en est mort en 77 et à ce moment-là, évidemment, ça a été très dramatique parce que la cinémathèque avait plus de dettes qu'elle n'avait de subventions. Alors, le fonctionnement, il n'y restait rien.
En 1968, l'affaire Langlois. En février, Malraux, ministre de la Culture, tente de retirer la direction de la Cinémathèque à Henri Langlois. Du monde entier affluent les télégrammes de soutien des plus grands noms du cinéma qui menacent de reprendre leurs films déposés à la Cinémathèque. 3 mois plus tard, Malraux rétablit Langlois dans ses fonctions. Henri Langlois.
Pour moi, ça a été une curieuse période parce que c'est à la fois, j'avais dit ouf, parce que j'avais passé 3 années d'agonie, et ouf, je suis débarrassé, comme quand tout d'un coup vous êtes opéré du cancer, ben, il est parti le cancer, c'est déjà ça, hein, on n'a plus de mal. Et puis d'autre part, je sais pas, c'est une chose assez rare, enfin, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient eu cette chance d'assister à leur enterrement vivant. Mais un enterrement merveilleux, parce que dans les enterrements, vous comprenez comme on est mort, même vos ennemis vous pleurent. Tandis que là, je savais qui étaient mes amis. Je n'ai eu que mes amis pour me pleurer, pas mes ennemis.
L'affaire Langlois, Georges Franju, en 1986.
Je disais que Langlois était un homme pathétique parce que j'ai gardé de lui l'image qui était la sienne au moment de son triomphe en 68. J'avais été le voir rue Gazan. Il avait fait un petit déjeuner au restaurant. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu que le sol du living de la rue Gazan était jonché de journaux avec les portraits de Langlois sur les premières pages. Il n'y avait que des portraits de Langlois sur le sol. Et traversant Emery, naturellement, qui hurlait au téléphone, et traversant le Livy, à peine en nous regardant, comme Langlois avait à monter au premier étage, j'ai vu un Langlois qui nous a vu, qui passait très, très hautain, au milieu de nous qui attendions là. Il a monté l'escalier en suffoquant et j'ai cru qu'elle n'arriverait pas en haut de l'escalier. Et je me suis dit, mais c'est terrible parce que c'est le triomphe. Mais c'est fini. Je me suis dit, mais ce Langlois, c'est vraiment un personnage pathétique. Ce triomphe, c'était la fin d'un destin. Ce type énorme, suffocant, dont on avait l'impression qu'il allait s'effondrer à chaque pas, et qui pourtant avait la démarche légère jusqu'au bout. Je me suis dit, c'est la fin d'un destin, c'est fini. Donc cette espèce de triomphe de la Cinémathèque, c'était aussi la fin. Ou c'était la fin de Langlois avec l'abîme, c'est-à-dire le néant, la fin de Langlois et la fin de la Cinémathèque. Je me demande si ça n'était pas le souhait suprême d'Henri Langlois.
France Inter, 13 janvier 1977, journal de 22 heures.
Le cinéma de tous les pays du monde vient de perdre sa mémoire. Voilà ce qu'a déclaré François Giroux, secrétaire d'État à la Culture, en apprenant ce soir la mort d'Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque. Lorsque Henri Langlois devint vers les années 30 un vrai cinglé de cinéma, pour reprendre le titre d'un film de Jerry Lewis, la pellicule des films muets était vendue au kilo pour en faire du vernis à ongles. Avec le début du parlant, plus personne ne s'intéressait aux origines. Et c'est Henri Langlois qui sauva du pilon l'arroseur arrosé. En 1935, il créa avec Georges Franju le Cercle du cinéma. Comme il n'avait que son appartement pour stocker les bobines, il les entassa dans sa salle de bain.
Il n'y avait pas de bureau de la Cinémathèque. Tout ça se passait chez Langlois et les films étaient entreposés dans la salle de bain du père Langlois. Alors le père Langlois ne disait rien tant que c'était dans la salle de bain. Il a commencé à rouspéter quand c'était dans la baignoire.
Pendant la guerre, Henri Langlois réussit à sauver près de 60 000 copies de films. Les Allemands voulaient en récupérer la cellulose pour en faire des explosifs. Après la guerre, il créa rue de Courcelles, puis rue d'Ulm et enfin au palais de Chaillot, la Cinémathèque. Cocteau a dit de lui qu'il était un dragon veillant sur ses trésors. Hélas, Henri Langlois n'était pas un très bon administrateur et André Malraux voulut mettre fin à son activité de gestionnaire. Mais l'affaire souleva une telle tempête que le gouvernement devait revenir sur sa décision. La Cinémathèque compte aujourd'hui 50 000 films et accueille dans sa grande salle du Palais de Chaillot des centaines de milliers d'amateurs de cinéma chaque année.
Ciné, ciné, cinéphile, difficile. Ciné, ciné, cinéphile, mais des comme toi, il n'y en a pas. Mon Piccoli et mon René, mon sosie de Mastroianni, toi qui te vautres sur le lit en m'aguichant de tes mollets, mon Gary Grant et mon Burton, mon Dustin Hoffman régional, est-ce que tu sais que t'es pas si mal quand tu te mets à séduire les femmes? Ciné, ciné, cinéphile, difficile. Ciné, ciné, cinéphile, mais les comme toi, y en a pas.
Au cahier du cinéma, Henri Langlois, 300 ans de cinéma, écrit, réuni et présenté par Jean Narboni. Ce livre reprend des textes de nature diverse sur l'histoire du cinéma, sur les hauts et les bas de la cinémathèque, sur des écoles nationales, sur des personnalités marquantes du cinéma.
Le départ du livre, le projet du livre, c'était la réunion des écrits de Langlois. Autour de la personne de Langlois, comme vous le savez, il y a une série de mythes, de légendes, fondées ou non. Et puis, il y a l'idée de ce que Langlois a pu écrire, qui n'a jamais été publié, qu'il faudrait publier un jour, qui peuvent aller aussi bien donc des écrits de jeunesse, des poèmes, ou de textes inédits. Et finalement, plutôt que d'attendre la parution possible ou improbable de ces écrits, nous étions dit un jour, à la fois à la commission d'édition de la Cinémathèque et ici au Cahier, avec Bernard Eisenschitz par exemple, qu'il faudrait peut-être modestement commencer à republier les textes que Langlois avait tout simplement écrits de façon certaine et déjà publiés ailleurs. Donc le projet était relativement modeste. C'était republication réunion des textes déjà publiés d'Henri Langlois. Alors à partir de là, il y avait deux types de textes. Il y a ceux qui étaient publiés dans des revues relativement accessibles, donc textes connus, mais presque introuvables. Ça avait paru dans la revue du cinéma, dans les cahiers du cinéma, dans l'art vivant, dans toute une série de publications. Et puis finalement, ou des entretiens donnés dans telle ou telle publication. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait également une masse assez importante de textes qui avaient été imprimés, disons, mais qui étaient soit inconnus, soit complètement oubliés, qui étaient donc toute la série de catalogues, brochures, programmes de la Cinémathèque, qui étaient parfois des brochures de 150 pages, dans lesquelles il arrivait qu'à l'occasion d'un hommage à tel ou tel cinéma national, Langlois écrive 4 textes de 30 pages, fasse lui-même une illustration, à côté compose un programme de film. Et finalement, dans le livre, il y a une part importante qui sont des textes qu'on peut dire qui sont parus. Et le fond du livre vient de ces textes. Alors, au risque de faire hurler les tenants de la devise de Langlois, à savoir tout garder, tout conserver, etc., bon, position par rapport à laquelle lui-même a été très nuancé, puis qui est devenue maintenant une sorte de slogan qu'on lance comme ça en toute occasion, il y a eu un choix, disons. Quand je dis sélection, c'est pas sélection par rapport à la valeur ou par rapport à tel ou tel critère hiérarchique, il y a eu un choix. Le choix de ces textes a été déterminé par... Il y a eu plusieurs types de choix. Premièrement, j'ai écarté tous les textes, parce que la plupart des textes dont je vous parle là, dans ces catalogues de la Cinémathèque n'étaient pas signés. Quelquefois, ils étaient signés Henri Langlois. Quelquefois, ils n'étaient pas signés. Donc, tous les textes dont je n'étais pas absolument certain, soit parce qu'ils étaient signés, soit par recoupement, soit par... pour avoir interrogé telle ou telle personne qui à ce moment-là était à la Cinémathèque ou y est encore, tout ce qui n'était pas certainement de Langlois a été délibérément écarté. premier point. Ensuite, il y avait des textes qui étaient des variations sur un même thème. Bon. Donc le parti pris a été, à partir du moment où sur un thème, cinéma national ou tel problème, il y avait plusieurs textes, choisir celui qui était le plus élaboré, le plus complet, qui faisait le tour du problème, etc. Le texte le plus ample.
Your love. C'est un Américain, il parle pas français.
Oui, il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait?
Who are you? What are you doing?
I'm an American film director. My name is Samuel Fuller, I'm here to make a picture in Paris. Called Flowers and Evil.
C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal.
Baudelaire, c'est bien. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
He said he wants to know exactly what his movie is.
Oh. Well, a film is like a battleground.
C'est comme une bataille pour un film.
Love.
L'amour.
Hate.
La haine.
Action.
L'action.
Violence.
La violence.
Death.
Et la mort.
In one word, emotions.
En un seul mot, c'est l'émotion.
Les types d'écriture aussi sont très différents chez Langlois. Parce qu'on dit toujours, bon, c'était un homme de parole seulement, il n'écrivait pas, ce qui est faux. Mais, ou bien quand il écrivait, c'était du parler transcrit, des conversations transcrites. Même Truffaut a écrit ça, dans, je crois, le confié à Richard Raoult dans, sa, dans la biographie. C'est vrai en partie. Et on le verra tout de suite à la lecture des textes. Il y a des textes qui sont soit des hommages, des allocutions prononcées et ensuite écrites, ou écrites et ensuite dites, ou, donc écrites pour être dites. Il y a des textes qui sont un peu de la parole écrite, mais il y a manifestement des textes qui sont de l'écriture. C'est-à-dire, bon, avec un mouvement qui est celui de textes écrits et produits comme écriture, et là-dessus, ça ne trompe pas. Donc, il y a des niveaux très, très différents, en particulier pour la partie qui est celle intitulée « Portraits-souvenirs », qui sont des hommages à des personnalités du cinéma, c'est-à-dire acteurs, producteurs, cinéastes, etc., dont manifestement la plupart ont été écrits à l'occasion d'hommages rendus et en présence de ces gens. Même dans ces textes, bon, il y en a un certain nombre qui sont des hommages très courts, du type Langlois présentant en 3 minutes tel cinéaste qui arrive à la cinémathèque, et d'autres qui sont extrêmement écrits. Et bon, là, évidemment, il n'y a pas eu de choix fait. On a gardé tous les types de régimes. Ça n'est pas le critère qui a présidé.
Dans le screen, it's pictures. Motion picture, it's called.
Ah, il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est écrit.
Henri Langlois.
Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité? Je peux pas vous expliquer. Un jour, Picasso m'a dit que Van Gogh était l'homme qui lui avait appris à mal peindre. La qualité, c'est quelque chose de c'est quelque chose qui sort du cœur des gens qui font le boulot. C'est quelque chose qui se... Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité? Qu'un travelling soit très bien. Il y a eu un moment où la qualité pour les techniciens, c'était d'avoir des travellings qui ne tremblaient pas. C'est pas? Il y a eu un moment où les gens qui inventaient les travellings s'occupaient pas s'ils bougeaient ou s'ils bougeaient pas, parce que s'ils bougeaient, de toute façon, ce qui les intéressait, c'est le travelling. Nous sommes arrivés à une époque où les gens ne font plus attention s'ils bougent ou s'ils bougent pas.
C'est très chouette. J'aime beaucoup le cinémascope.
Oh, ce n'est pas fait pour des hommes, c'est fait pour les serpents ou les enterrements.
Il a, bon, premièrement, bon, une pensée qui est de type analogique, enfin comparative, c'est-à-dire qu'il met immédiatement en rapport des choses, bon, dont les affinités ne frappent pas au premier abord. Donc c'est un point de vue extrêmement... de type relationnel, donc il tisse sans arrêt des relations, le cinéma italien, le cinéma danois, l'influence de ceci, Paris, New York, New York, Paris, etc. Donc ça, c'est son comparatisme effréné. Et puis des vitesses très très différentes. C'est-à-dire que, bon, on a vraiment l'impression d'une sorte de... On a l'impression de voir presque un rythme visuellement. C'est-à-dire que, bon, tout à coup, bon, entre 1904 et 1905, il va s'attarder, et puis tout à coup, il va accélérer sur une période beaucoup plus ample, parce que ça lui paraît être une période relativement de capitalisation, ou bien un peu plus morne, et il repart un peu dans ce mouvement.
Je vous présente ma femme, Camille.
Enchantée, madame.
Fritz Lang, arrêtez.
Bonjour, monsieur.
Tu sais, c'est lui qui a fait le western avec Marlene Dietrich qu'on a vu vendredi soir.
Oh oui, c'est formidable.
Moi, j'aime mieux M.
Le maudit?
Oui.
On l'a vu l'autre jour à la télévision. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Merci bien. C'est bien demandé.
Il avait des partis pris. Son principe de non-sélection était un principe de non-sélection sur la conservation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'avait pas des principes de programmation et qu'il n'avait pas des partis pris bien fondés. Donc ça entraîne évidemment des formulations qui parfois peuvent apparaître un peu rugueuses, si je puis dire. Il ne faut pas trop croire le côté « tous les films sont libres et égaux en droit ». Moi, je prends tout parce que je suis un mémorialiste. Il y avait tout de même une sorte de radar qui ne trompait pas. Il a joué un rôle très important dans la remise à leur juste place, comme ça, des hiérarchies entre les cinéastes.
Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez?
Le point.
Je vais retourner à Rome. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre.
Bon.
Et vous?
Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé.
Quel plan vous faites, là?
Le premier regard d'Ulysse quand il revoit sa patrie.
Ulysse!
Itac.
Au revoir.
Au revoir, monsieur Lang.
Au revoir. À bientôt, j'espère.
Ulysse vers la mer.
Ulysse vers le mare.
Monsieur Lang, on est prêt.
Merci.
Silence, on tourne.
Silenzio si gira. Silenzio.
Caméra.
Moteur.
Deuxième parution. En octobre 86, chez De Noël, Henri Langlois, premier citoyen du cinéma, co-signé par Georges-Patrick Langlois, avocat et frère d'Henri, et par Glenn Myrant, jeune universitaire américain qui travaille au musée du cinéma. Le tout en collaboration avec Hugues Langlois, photographe et fils du frère. Drôle de biographie, souvent mal fagotée, pleine d'anecdotes et de flou, comme si cette vie d'Henri Langlois ne pouvait être retracée autrement qu'en saga d'un homme déjà entré dans la légende. Or, bien des protagonistes de l'histoire, et c'est heureux, sont encore en vie. Alors, courage ou amour aveugle? Georges-Patrick Langlois.
Je ne voulais surtout pas que l'on puisse imaginer que parce que j'étais le frère d'Henri, j'allais faire un livre dithyrambique pour glorifier mon frère. Donc, d'une part, moi, je possédais une documentation extraordinaire. Il fallait aussi que l'on puisse recueillir des interviews d'un certain nombre de personnes éparpillées dans le monde entier. Et Glenn Myrant a été pour moi, évidemment, d'un grand secours, car il a fait ce travail. Et de telle sorte que, avec l'aide également de mon fils, nous avons fait un ouvrage qui représente une somme énorme de documentation. Tout est véridique, chaque point peut être vérifié par une documentation extraordinaire. Et alors justement, je voudrais quand même rendre hommage à Glenn Myrant, parce que, moi, j'avais déjà écrit pour Films et Documents. Lui avait fait un certain nombre d'entretiens et il avait fait un énorme travail puisqu'il avait recueilli des interviews mis bout à bout, qui constituaient déjà avec des passages de relations, qui constituaient déjà toute la trame d'un livre. Glenn avait choisi l'ordre chronologique et finalement j'ai donc repris cet ordre chronologique. La difficulté dans la vie d'un homme comme Henri, c'est que des actions, il a eu des actions en profondeur, de telle sorte que des actions qui commencent, disons, en 1900, je prends n'importe laquelle, mais en 1938, ont leur aboutissement, ont des rebondissements en 1960 ou 67, et que pour un lecteur, c'est difficile de suivre l'évolution. Nous avons donc fait un peu, et là, je pense que ça a été bien fait quand même, un découpage pour que tout en respectant l'ordre chronologique, le livre soit justement extrêmement vivant et que l'on arrive à suivre quand même l'évolution de certaines choses. Voilà. Donc, nous sommes très contents.
Le Cercle du cinéma est créé par Langlois et Franju en décembre 1935. Georges Patrick Langlois avait 15 ans.
Vous savez comment cela s'est passé? J'étais bon, indépendamment de mon enfance que j'ai passée à côté de mon frère Henri, j'ai participé à la création du Cercle du cinéma, de telle sorte que à l'époque j'avais 17 ans, je déchirais les tickets, je plaçais les gens, et tous ces gens-là sont des gens qui sont extrêmement célèbres, et c'était des rapports familiaux, si l'on peut dire, avec un certain nombre de personnages. Je prends l'exemple des frères Prévert, par exemple. Et il y avait une atmosphère qui faisait que, lorsque la séance était terminée, on se retrouvait dans des cafés, on discutait de cinéma. Et ma mère, d'ailleurs, accueillait tous ces gens à des thés, à la maison. C'était une sorte de salon du 18e siècle, mais sur le cinéma.
Georges Franju réagit.
Georges Langlois mêlé aux activités du Cercle du cinéma, c'est une blague. C'est une imposture. Et je n'hésite pas à le dire, c'est une imposture, car jamais Georges Langlois n'a été mêlé aux activités du Cercle du cinéma, sauf quelquefois pour déchirer les billets à l'entrée. C'est tout. Et je sais même... Je me souviens très bien que quand je fréquentais la maison Langlois, car je l'ai beaucoup fréquentée de 1934 notamment, de 1934 à 1938, et que Georges Langlois voulait se mêler à la conversation, Henri Langlois le chassait d'une invective que je ne répéterai pas. Mais qui était devenue si banale, tout en étant si grossière que tout le monde en riait.
Mais écoutez, je vous dis qu'à la création de la Cinémathèque en 1936, j'étais pas trop jeune, j'étais en première. J'avais 16 ans, et un garçon qui fait la littérature en première n'est pas un enfant. Bon, or, depuis 1935, déjà un an avant, on faisait le Cercle du cinéma avec Franju, et que j'avais ma place au Cercle du cinéma. Et qu'en 1936, vous le savez, alors que j'étais au lycée, on m'avait déjà envoyé en Allemagne pour sortir des films à la barbe des nazis. Donc j'ai vraiment participé, comme peu de garçons participent, à une action. C'est pour vous dire que j'ai tout le temps été mêlé à la vie d'Henri. Il faut dire aussi qu'à l'époque où nous recevions beaucoup de gens du cinéma à la maison, ben, naturellement j'étais aussi à la maison. Et par la suite, mon Dieu, comme je le dis, chaque fois qu'Henri avait un problème, il avait confiance en son frère.
Yvonne Dornès et Georges Patrick Langlois, alors?
Moi, je le rencontrais extrêmement peu à l'époque. Il ne venait pas souvent à la cinémathèque. Henri le voyait peut-être en dehors, je ne sais pas. Il en parlait peu. Mais de sorte que, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas connues. Je ne sais pas comment il a construit son livre, parce que il m'a dit qu'il préparait un livre, mais je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait posé beaucoup de questions. Je le rencontrais de temps en temps, notamment au conseil d'administration, où nous nous retrouvons régulièrement, mais je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait posé des questions sur mon activité auprès d'Henri. J'ai pris quelques petites notes en lisant le livre sur les grandes lacunes qu'il y a dans ce livre, en ce qui me concerne uniquement. Alors, j'ai noté en lisant le livre les passages où j'ai eu une action importante et où je n'ai même pas été citée, parce que Georges Langlois n'est pas du tout par... nous sommes en très bons termes, nous sommes collègues au conseil d'administration, nous avons toujours eu les meilleurs rapports, mais simplement parce qu'il ne le savait pas, parce qu'il n'assistait pas à ces choses-là et qu'il ne l'a pas su, c'est tout. Ce peut-être ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on y participe peu de Georges Frangu. Parce que Georges Frangu a joué dans la création de la Cinémathèque, aux côtés de Langlois, un rôle considérable. Considérable, et ça, je l'ai vécu. Et puis alors, tout son rôle tellement important pendant l'occupation. Et évidemment... Frangu, ensuite, a fait son métier, qui lui était un réalisateur de films. Mais il est certain qu'il a joué un rôle vraiment tout à fait capital et dont on parle pas souvent.
Yeah. Come on inside, I want to talk to you.
I've just been here, but I'm afraid I'm going to beat you to it. I'm quitting. I lost one friend I had in this place, and I know it too. So I quit, I'm dead quit.
Yvonne Dornès, membre du conseil d'administration de la Cinémathèque française depuis 1940, en est actuellement la présidente d'honneur. En 1937, elle aide à la création de la Fédération internationale des archives du film, c'est-à-dire la FIAF.
Cette Fédération des archives du film, que nous avons créée en 1937, et en 1938... ont été les premiers rapports avec le major Enzel, qui était le représentant de la Reichsfilmarchiv, une cinémathèque importante. Et les relations avec Enzel étaient excellentes. Enzel était, comme Langlois, un amoureux du cinéma, un amoureux des films. C'était un personnage intéressant, de mère anglaise, qui n'avait rien d'un nazi, et avec lequel nous avions d'excellentes relations. Et pendant toute l'occupation, c'est Frangu qui s'est occupé de la Fédération. Et ça, on l'oublie un peu trop, parce que ce rôle était capital. Henri était, lui, lancé dans la défense de ses films, bien sûr, mais en même temps dans la résistance. Moi-même, j'y étais par ailleurs à travers SVP, qui était pour moi un instrument de travail exceptionnel, vous le devinez, au point de vue résistance, une couverture fantastique. Et j'avais mon propre réseau avec des antennes partout, et ce qui m'a permis de rendre pas mal de services. Mais en ce qui concerne la Fédération, Henri ne voulait pas s'en occuper du tout. Et il avait chargé Frangu de cette tâche. Frangu avait donc, qui avait été nommé avant la guerre, et demeuré secrétaire administratif de la Fédération. C'est lui qui travaillait directement avec le major Enzel. Et moi, je faisais la liaison entre Langlois et Frangu.
Georges Frangu.
Si tout a été obtenu par la Cinémathèque française, tous les services de la Fédération, c'est grâce à Yvonne Dornès. Car Yvonne Dornès était une femme à tenir tête et à convaincre un homme comme Enzel. Alors qu'un homme comme Enzel, vous compte, un bonhomme d'un poids aussi considérable, n'aurait pas supporté pendant une minute le discours de Langlois, toujours fait de provocations, d'allusions et de menaces, il l'aurait foutu à la porte. C'était Yvonne Dornès. Et c'est grâce à Yvonne Dornès que tout a été sauvé très officiellement, indépendamment de ce qui a été fait officiellement. Il y avait mon activité clandestine à moi et avec Langlois, naturellement à l'insu du président. Ça, on ne pouvait pas tout lui dire. Par conséquent, si Langlois a existé sous l'occupation, c'est bien parce qu'il était souverainement assisté par la Fédération internationale des archives du film, représentée pour la Cinémathèque par Yvonne Dornez et par moi. Voilà. Par moi auprès d'Enzel. Voilà comment les choses se sont faites. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Où on voit Langlois faisant cavalier seul, allant chercher les films. Et... Comprenez ? Toujours dans le danger, c'est presque les barricades. C'est incroyable, oui, c'est Zorro. Bref, enfin, tout ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit là.
Réponse de Georges Patrick Langlois.
Non, Madame Dornez n'est pas occultée parce que, d'une part, elle a eu un rôle important dans cette première partie de l'occupation où elle a été envoyée en quelque sorte en mission par Henri en... chez le major Enzel. Mais elle apparaît déjà aussi tout à fait au début. Et puis elle apparaît au moment de 68 où c'est elle qui m'a demandé de réunir ces fameux pouvoirs et de faire cette sommation qui était très délicate à faire à l'administration. Mais on ne peut pas sur un seul... Henri était entouré de tant de personnages que l'on ne pouvait pas ne parler que de l'un d'eux, vous comprenez, tout au long d'un livre. Et comme vous l'avez vu, il y a eu toutes sortes de gens qui ont été des compagnons d'Henri. Il y a eu Georges Franju. Bon, mais après la guerre, Georges Franju a fait des films. Donc, tout cela pour vous dire que nous étions obligés quand même de synthétiser. On ne pouvait pas s'étendre. Et Franju, par exemple, n'a absolument pas été occulté non plus. Mais il est certain que ce qui est intéressant, je crois, dans mon ouvrage, dans notre ouvrage, c'est que on voit toutes ces personnes qui successivement vivent aux côtés d'Henri Langlois et puis prennent leur essor en quelque sorte et font ce qu'ils ont à faire par ailleurs, par la suite. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Henri était le personnage central et qui avait en quelque sorte autour de lui des disciples. C'est un peu délicat à dire, mais c'est vrai, ça correspond à cela. Il y a eu autour de lui Marie Epstein, enfin, vous le savez bien, Lotte Eisner, Mary Merson, bien entendu. Donc Henri n'a pas été seul. Mais, si vous voulez, il a été la continuité pendant toute sa vie sur une seule action. Et c'est cela qui fait la différence.
Oh, il ignore absolument le cinéma.
Il est allé deux fois à la pomme avec tante.
Oui, mais la première fois, il a dit « Mon Dieu, que c'est idiot !» Et la seconde fois, il s'est endormi.
Ça, c'est vrai. Mais enfin, il y est allé tout de même.
Oui, on ne peut pas dire que ce soit un spectateur passionné. Et j'irai lui dire que mon don de Dieu, c'est le cinéma? Non, non, Casimir. Pas de révélation prématurée. N'effrayons pas cet honnête officier.
C'est vrai que peut-être, il pourrait te décourager.
Me décourager? Enfantillage, Casimir. Je sais bien que je suis un acteur né. Je sais que j'ai un don. Je sais que si Dieu m'envoie ma chance, moi aussi, je verrai mon nom sur les affiches et sur la façade lumineuse des cinémas.
Georges Franju. La Madou dont il parle, c'est Madeleine Maltet Méliès, la petite fille du grand Méliès.
Puis alors, il y a une chose aussi. Madou, je téléphone à Madou, parce que vous avez le bouquin de Langlois. Elle m'a dit oui, et là, je vous assure, je regrettais que vous ne soyez pas à côté de moi. N'ayez pas dit quand je suis arrivé. Au passage, vous êtes amoureuse de lui. Je me suis étranglée de rire, elle m'a dit. Écoutez, il fait de Langlois un grand amour. Allons.
Oui, j'étais curieuse.
Mais enfin, merde. Moi, je sais très bien, je suis mieux placé pour savoir que Langlois avait des attirances homosexuelles, enfin merde. Et qui se sont concrétisées plus tard. C'est évident, pas de mon temps. Parce que, il était très hésitant, il était très peureux. Il était très émouvant, d'ailleurs, à cause de ça. Mais enfin, c'est ça, quoi. Enfin, il était amoureux de Catherine Esling. Oui, seulement ce qu'il ne dit pas lui, c'est que...
Plus.
Oui, mais Catherine Esling l'a foutu à la porte. Il a viré Catherine Esling, Langlois. Il a viré, il en avait marre de Langlois. Non, encore tout ça... Tout ça est cocasse. Alors, oh, oh, mais alors, il y a une chose énorme, là. Oh, une chose énorme. Ça, alors, ça, c'est bidonnant. Ah, ça, je vous assure qu'il y a de quoi rire. Voilà. Ah, écoutez, écoutez ça. Voilà ce qu'écrit Langlois. Moins heureux auront été les filtres de la collection Éclair, pour lesquels Henri avait combattu avec tant d'acharnement en 38. Ceux-ci étaient restés au château de Coucy, théoriquement protégés dans les oubliettes. Hélas, les bombardements acharnés des Anglais détruisirent le château qui s'effondre, engloutissant sous des tonnes de pierres les quelques 1200, 3000 négatifs du stock d'éclair. Le château de Coucy n'a pas été bombardé en 39, il a été bombardé en 14. Il n'y a qu'à ouvrir le petit Larousse qui est ici, et on vous le dit. Alors, comme j'avais déjà, Mitry avait dit la première, Mitry qui est un spécialiste aussi des fausses affirmations à côté de la plaque, Mitry disait, le château de Coussin est débombardé, sauf éclair, on va au château de Coussin. Moi, j'ai fait un article dans le... Parce que je connais bien l'histoire du stock éclair. J'ai fait un article dans le journal de la Cinémathèque où je dis, château de Coussin, quoi qu'on ait écrit, n'a jamais été bombardé. Il faut croire que Georges Angois ne m'a pas lu, puisqu'il répète la même connerie. Alors, il n'a qu'à téléphoner. Si on veut s'informer, on n'a qu'à téléphoner à la mairie de Coucy-le-Château, on n'a qu'à téléphoner à M. Vouet, gardien du château, né natif, comme il dit, de Coucy-le-Château, et qui vous affirmera qu'il n'y a jamais eu le moindre bombardement et le moindre incendie au château de Coucy pendant la dernière guerre. Voilà. Enfin, c'est quand même énorme, hein ? Écrire des trucs pareils.
Mais il vous a rencontré, Georges Langlois, pour ce livre avant ? Ou Glenn Miron ?
Pas du tout.
Jamais.
Mais non, ce sont des farfelus, ce sont des rigolos.
Donc, par exemple, tout.
Je dis c'est Zorro.
Il y a une erreur. J'ai relevé une erreur. Ce n'est pas grave, c'est le bombardement du château de Coucy. Ce n'est pas pendant cette guerre-ci que Coucy a été bombardé, c'est pendant la guerre de 14.
Écoutez, moi, je n'étais pas présent au château de Coucy pendant les bombardements, mais si nous avons mis cela dans l'ouvrage, c'est parce que j'ai une interview de Mitry qui habitait à ce moment-là dans la région et qui parle de ces bombardements. Je n'ai pas compulsé les archives de l'armée jusqu'à savoir de quoi il s'agissait, mais de toute façon, le château de Coucy était délabré et Mitry dit qu'il y a eu des bombardements. Voilà. C'est basé sur une audition de témoignage.
C'est comme quand Mitry écrit, les premiers films de la Cinémathèque ont été mis dans les souterrains de Ris-Orangis. Ils n'étaient pas dans les souterrains de Ris-Orangis, ils étaient dans les anciennes écuries du château d'Orly. Ça n'a aucun rapport. Ils se trompaient de maison de retraite.
Je crois que ce livre est tout à fait complet. Si on se met à discuter sur une question de bombardement d'un château, ça prouve qu'il y a toujours des gens qui essayent de trouver quelque chose à redire. Vous comprenez, c'est ce qui est assez curieux.
Alors, si vous voulez le fin mot de l'histoire, consultez l'encyclopédie Larousse, qui vous dira que le château de Coucy, dans l'Aisne, a été détruit par les Allemands en 1917. Jean Arbeny.
Garderai bien de me lancer dans la tentative de biographie de Langlois, mais je sais que ça ne peut que provoquer des crispations et on est sûr de se faire des ennemis. Voilà, c'est la seule chose que je puis dire. Parce que dans la mesure où on touche à quelque chose qui relève de du mythe et qui a un caractère sacré, il faut bien le dire, immédiatement, bon, tout ce qu'on peut avancer est contesté, heurte, blesse, etc. Bon, dans la mesure aussi où c'était un personnage extrêmement... c'était presque une machine de guerre à lui tout seul, que ça qu'il a fonctionné sur des ruptures, des réconciliations, des allégeances, des filiations, des obéissances, des cultes, etc. Bon, tous les gens qui ont été dans sa mouvance et qui sont aujourd'hui vivants peuvent toujours, à partir de tels faits, avancer qu'en fin de compte, ça ne s'est pas passé comme ça, que ce qu'on a dit était faux. En particulier, bon, sur le problème même de la fondation de la Cinémathèque. Il est évident que Paul-Auguste Darlet, directeur de la cinématographie française, a joué un rôle important, Franju, Langlois, Jean Mitry, mais ne serait-ce que pour ce moment-là, ce coup d'envoi, il y a des contestations incessantes, enfin, sur le rôle que chacun a joué, cru jouer, déclare que l'autre a joué, etc.
C'est impossible d'écrire l'histoire de Langlois parce que Langlois a fait une œuvre admirable, mais c'était pas un homme bien, Langlois. Pas du tout. Pas du tout. Langlois, par certains côtés, était un salaud. Mais il fallait être un salaud aussi pour faire la Cinémathèque. Il fallait piétiner tout le monde. Si Langlois n'avait pas été un salaud, il n'aurait jamais réussi à faire la Cinémathèque française. Jamais. Vous comprenez ? C'est ça, Langlois. Il n'avait qu'une passion, la Cinémathèque. Donc Langlois n'est pas intéressant. Si on veut connaître Langlois, alors voyons son œuvre. Voyons la Cinémathèque et voyons le musée. C'est ça Langlois. La plus belle image qu'on peut donner de Langlois, c'est ce qu'il a fait.
On peut parler très longtemps d'Henri Langlois. Il y a un exemple, c'est vrai, que quand plusieurs personnes qui l'ont connu se retrouvent, il devient omniprésent. Et pas très très longtemps après sa mort, j'ai assisté à un dîner et autour de la table, il y avait un certain nombre de gens de cinéma, critiques et autres, dont certains étaient des ennemis d'Henri, enfin des ennemis selon la terminologie langloisienne, mais étaient des gens qui n'aimaient pas Langlois et qui attaquaient certaines de ses méthodes, etc. Moi, je me suis battue dans l'autre sens parce que je trouvais que ce qu'il y avait de bon l'emportait largement sur ce qu'il y avait de moins bon. Et ça a duré très longtemps. Et à la fin, je leur ai dit, mais vous voyez, quoi que vous en pensiez, depuis 2 heures, il est assis avec nous. Et ça, vous ne pourrez jamais l'empêcher. Et je pense que ça va durer encore longtemps, tant que nous serons là. Ce n'est d'ailleurs pas autre chose que disait François Truffaut dans La Chambre verte. Tant que nous penserons à eux et que nous les aimerons, ils ne mourront pas.
Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Lamolle. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard.
Henri Langlois. 300 ans de cinéma.
Georges Delerue a écrit la musique.
Rassemblé par Jean Narboni.
Et le son a été enregistré par William Sibel.
Au cahier du cinéma.
Le montage est d'Agnès Guillemot.
Henri Langlois.
Philippe Dussard s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati.
Premier citoyen du cinéma.
C'est un film de Jean-Luc Godard.
Par Georges Patrick Langlois.
Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville.
Et Glenn Myrant, chez De Noël.
Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica Champion à Rome.
C'était Gros plan sur Henri Langlois par Denise Luccioni et Bruno Sourcy. Avec Yann Parentoen et Marie-Cécile Mazzoli. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 octobre 1986.